Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Il y a longtemps que je veux parler à ma prochaine invitée avec qui on va discuter d'immigration parce que c'est sa spécialité. Bonjour, Anne-Michel Meigs.
Bonjour, M. Robitaille.
Alors, Anne-Michel Meigs était directrice de la planification et de la reddition de comptes au ministère, au MIFI, comme on dit, le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Elle a aussi été directrice de la recherche à l'Office de langue française. Je commencerai par une question sur la récente déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait que le Québec avait complètement perdu le contrôle sur son immigration. Est-ce que c'est exagéré, selon vous, de dire ça?
J'ai plusieurs textes dans l'autre journal qui avaient la même manchette. Là.
Oui.
c'est pas qu'ils pourraient pas contrôler, mais c'est surtout du point de vue de l'immigration temporaire.
Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il est encore utile de discuter des seuils d'immigration alors que le nombre d'immigrants temporaires explose?
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre d'immigrants permanents qui reçoivent, on va le dire comme ça, reçoivent leur résidence permanente chaque année, ce n'est pas du tout le nombre de personnes qui arrivent chaque année. Donc, on n'est pas en train de planifier des arrivées maintenant. Ça a déjà été un peu ça dans le passé, quand, jusqu'à il y a à peu près 10 ans ou encore moins, là, ça fait moins de 10 ans là, que la question de l'immigration temporaire a commencé à exploser. C'est doucement, mais rapidement.
Ouais.
Et ensuite, plus rapidement. Avant ça, pendant des décennies, tout le monde devait faire leur demande d'immigration de l'étranger. Leur demande était évaluée selon la grille de sélection du Québec. Ça, c'est l'accord Canada-Québec qui s'entend là-dessus. Et ensuite, ils recevaient leur certificat de sélection du Québec et leur résidence permanente, puis le fédéral. Et donc, ils arrivaient au pays avec leur résidence permanente.
Mm-hmm.
Et la période pour tout ça pouvait, tout ça, ça pourrait prendre comme un an.
Donc quand on dit qu'on en reçoit 55 000 par année, ou c'est pas vraiment des arrivées, c'est des gens qui sont reçus immigrants.
C'est ça, ils ont reçu un nouveau papier.
C'est ça, c'est tout, oui.
Qui leur donne plus de droits, là, mais c'est pas des arrivées. Parce que la plupart, maintenant, obtiennent, sont déjà au Québec avec un statut temporaire quelconque avant de faire leur demande de résidence permanente. Donc, si on veut regarder le nombre d'arrivées, mais il faut regarder le nombre de personnes qui arrivent pour la première fois au Québec avec un permis temporaire.
Ah bon, OK.
Les demandes, c'est ça. Et ça,
mais là, attendez, là, c'est tellement mêlant l'immigration, c'est tellement complexe.
Oui, oui.
Quand vous dites un permis temporaire, est-ce que ça veut dire que à ce moment-là, c'est un immigrant temporaire ou un travailleur temporaire ou un étudiant temporaire? Tu sais, que...
Il y en a différents temporaires.
Oui, c'est ça.
Il y a des, surtout...
Vous dites qu'il y a quatre sources d'immigrants, immigration temporaire ici.
Oui, à peu près. Là. Il y en a des étudiants.
Oui.
Il y a deux types de travailleurs et il y a des demandeurs d'asile. grosso modo. Et ça, les demandeurs d'asile, ça, on peut pas, ben, c'est-à-dire, ils arrivent puis ils demandent d'asile. Ça fait que c'est pas comme ils ont reçu un papier avant. je devrais peut-être me corriger. Mais c'est ça, là. On contrôle pas même le, on le voit, les demandeurs d'asile partout dans le monde. Tu sais, on les appelle les migrants, puis ils fuient des situations, puis ils essaient de passer sans avoir passé par les étapes préliminaires. Mm-hmm. C'est comme faire une demande de visa pour un visiteur ou pour quoi que ce soit. Il y a aussi des visiteurs. Je devrais peut-être ajouter ça, là, parce que ça commence à rentrer dans le calcul de ces jours-ci. Mais c'est surtout ça. Puis dans l'accord Canada-Québec, et quand je dis que le Québec, à mon avis, pourrait contrôler même l'immigration temporaire, ça dit que le Québec doit donner son consentement pour chaque étudiant étranger et chaque travailleur étranger temporaire.
OK.
Oui.
Et c'est ça, il a perdu le contrôle de son immigration. Il pourrait, en vertu des ententes avec le fédéral, là, vous soulignez celle de 1991, donc il pourrait contrôler davantage son immigration ou reprendre le contrôle.
Ce qu'ils ont fait, leur consentement, ce qu'ils font maintenant, cette expression de consentement, pour montrer le consentement, ils donnent ce qui est appelé un certificat d'acceptation du Québec. Il donne un CAQ pour chaque étudiant et il donne pour chaque travailleur et temporaire dans le programme de travailleurs étrangers temporaires, ce qui sont des permis fermés, comme on dit. Ça, c'est le programme où les gens sont liés à l'employeur. L'employeur doit faire une demande de pouvoir embaucher. Le Québec et le fédéral disent oui. Ensuite, il y a un processus pour qu'ils viennent. Et ces gens-là, avec ce type de permis-là, ils peuvent pas travailler pour un autre employeur. Ça, c'est ce qu'on a entendu parler récemment, là, d'un type quasiment d'esclavage moderne.
Oui, ben oui. Ça, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET.
PTET, exactement.
À ne pas confondre avec le programme de mobilité internationale.
Ça, c'est une autre paire de manches, celle-là. Ça, là, c'est sorti du PTET. En 2014, Harper voulait resserrer, imagine, les règles pour le PTET, parce qu'il y en a des employeurs qui... les banques et tout ça qui embauchaient des gens pour de l'étranger pour faire le même travail qui se faisait par les travailleurs canadiens. Puis même qu'il y avait des manchettes disant qu'ils demandaient des travailleurs canadiens de rester puis former les étrangers là, dans leur job. Là, c'est que là, Harper a réagi à tout ça. Il voulait clarifier les choses et faire une distinction entre ceux qui viennent pour des raisons évidentes de marché du travail. Donc là où il y a... Et ce PTET-là est censé, dans la réalité, d'être un dernier recours.
Mm.
En général, normalement, les employeurs devaient toujours montrer qu'ils ont tout fait pour trouver des travailleurs locaux avant d'avoir l'approbation, l'autorisation d'embaucher de l'étranger. Mais ça a été allégé de beaucoup, et particulièrement par le Québec. M. Boulet était très fort sur ce programme-là et a allégé beaucoup les règles pour ce programme-là pour les employeurs. Donc ça, c'est le PTET, mais le PMI,
Le programme de mobilité internationale, oui.
Oui. Ça, c'est des permis qu'on appelle la grande majorité, les permis ouverts. Ça veut dire qu'ils peuvent travailler ou pas, mais ils peuvent avec ce permis-là pour n'importe qui, n'importe où au Canada. Et celle-là, et c'est là où le bas blesse, parce que celle-là, ça a pris énormément d'ampleur. Les trois ont pris de l'ampleur, mais les étudiants le plus au Canada.
Oui, c'est intéressant. Vous donnez des chiffres dans un de vos derniers textes. Vous dites 46,3 % du total pour les permis d'études. Après ça, le PTET, juste 17,5%. Ça, c'est les travailleurs temporaires saisonniers, par exemple.
Oui.
Puis enfin, les PMI, vous dites 36,3%. Ça, c'est comme un permis de travail temporaire, mais assez général, là, assez flexible.
Bien, c'est-à-dire que c'est une multitude. Il y a des dizaines de différentes... Des centaines. J'ai pas fait un inventaire récemment de différents types de permis dans ce programme-là.
Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que c'est n'importe quoi?
Oui. Mais c'est... Et donc, les trois types de permis dans ce programme-là qui ont augmenté le plus et le plus rapidement sont liés au permis d'études dans le sens que il y en a un que pour les conjoints des étudiants et il y en a un pour les post-diplômes. Donc, les étudiants, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils peuvent avoir un permis ouvert. Et les conjoints de ces travailleurs spécialisés-là, parce que si tu as un bac ou quelque chose, tu es considéré comme un travailleur spécialisé. Donc, ces trois types de permis-là ont augmenté le plus. Et le Québec, pour une raison que j'ai pas pu déterminer encore, n'a pas insisté ou ne donne pas, je vais dire tout très neutre, de façon le plus neutre possible, ne donne pas son consentement pour ces permis-là. Pourtant, mes interprétations de l'accord et mes discussions...
Attendez, je veux être sûr de bien comprendre. Est-ce que vous dites qu'il refuse ces permis-là ou il n'exerce pas son droit de refuser?
Il n'exerce pas son...
OK.
Un instant, laisse-moi le dire. La ministre dit que ils n'ont pas le contrôle là-dessus, c'est une affaire du fédéral.
Vous dites que c'est pas vrai, il pourrait.
Ben, j'ai eu des discussions avec juristes et avec le négociateur fédéral de l'accord de 91. J'ai encore en contact avec André Burel, qui était négociateur fédéral pour cet accord-là.
Oui, oui.
Il dit que c'était l'intention que le Québec contrôle toute son immigration.
Bon.
Temporaire et fédérale.
Alors, pour
ça dit dans l'accord, le travailleur étranger temporaire,
oui.
Ça couvrait tout le monde parce que le PT, c'était à peu près le seul sort, puis il n'y avait pas le PMI dans le temps.
Donc, la clé pour retrouver le contrôle, ça serait que le Québec exerce ce droit-là à accepter ou refuser ces travailleurs temporaires, c'est ça? Est-ce que je comprends bien?
Je dirais que oui, mais il contrôle déjà les deux autres. Et les permis d'études, c'est un gros morceau.
Et d'ailleurs, il contrôle pas les réfugiés, les demandes de...
Les réfugiés, oui, la plupart. Les demandeurs d'asile, non.
C'est ça. Les demandeurs d'asile, ça, le Québec contrôle pas. Ils demandent contrôle là-dessus.
Les réfugiés qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire que par les processus habituels, parrainés ou tout ça, ça, c'est... Oui, le Québec contrôle ça.
Mais pas les demandeurs d'asile.
Okay. Non. Puis ça, c'est problématique. Et ça, c'est là où le fédéral pourrait mieux faire pour resserrer les choses, mais c'est...
Très bien. Mais Mme Meigs, merci infiniment. Merci.
Ça me fait plaisir.
J'étais très content de vous parler. On a essayé de clarifier cette espèce d'écheveau épouvantable qui est... que sont les règles en matière d'immigration ici au Québec et au Canada.
Merci. C'est pas évident.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Et c'est tout pour Là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça comprend le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.